Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 4. Elle sera en trois parties. Première partie, esprit de renoncement et liberté. Deuxièmement, avoir une âme de pauvre. Troisièmement, aller travailler à ma vigne. Donc, première partie, esprit de renoncement et liberté. Les meilleures objections et humiliations, si vous voulez, sont celles que nous n'avons pas choisies et qui nous sont moins agréables, ou pour mieux dire, celles pour lesquelles nous n'avons pas beaucoup d'inclination et, pour parler net, celle de notre vocation et profession. Voyez-vous, le plus beau des jardins exige d'être constamment entretenu, sinon les mauvaises herbes l'envahissent, le départ de sa beauté et compromettent la qualité et la quantité de la récolte. Dans notre jardin intérieur, les mauvaises herbes poussent aussi et comment? Elles ont des noms fort divers: égoïsme, orgueil, recherche de nos aises, envie, jalousie et paresse. Et c'est l'amour propre qui les résume toutes. Nous avons à les combattre, à les déraciner, pour éviter qu'elles n'étouffent en nous, surtout, l'appel à la sainteté que le Seigneur nous redit chaque jour. C'est un combat de longue haleine qui dure toute la vie, car elles sont tenaces et coriaces. L'amour propre ne meurt jamais que quand nous mourons, hélas. Il a mille moyens de se retrancher dans notre âme. On ne l'en saurait déloger. C'est l'aîné de notre âme, car il est naturel, ou au moins co-naturel. Il a une légion de soldats avec lui, de mouvements, d'actions et de passion. Il est adroit et ses mille tours de souplesse. Puisque l'amour propre ne meurt point tant que nous vivons, il faut absolument chercher à en maîtriser les effets. Si nous ne pouvons l'empêcher de vivre, il faut au moins l'empêcher de régner. Il n'y a pas de sainteté sans mortification, sans effort constant et généreux pour enrayer l'action de tout ce qui en nous nous porte au repliement sur nous-mêmes et à l'orgueil. Du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes mort et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Mortifiez donc vos membres terrestres. Je n'aime pas trop cette expression, alors, à la place de dire mortifier, je vous dis calmez donc vos membres terrestres. Chers amis, pour suivre le Christ triomphant du matin de Pâques, nous devons sans cesse mourir au péché et nous laisser conduire par son esprit d'amour. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? courez donc de manière à l'emporter, car tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous, au contraire, une couronne impérissable, gloire à Dieu. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure, c'est ainsi que je fais du pugilat, sans frapper dans les vides, je meurtris mon corps et le traite en esclave, de peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, je ne sois même moi-même carrément disqualifié. Et ça peut arriver. Tout comme l'athlète, chers amis, s'astreint à un style de vie exigeant, eh bien le chrétien doit conquérir la maîtrise de soi. La mortification a un objectif bien précis, donner à la volonté de contrôler parfaitement la situation, former la volonté pour qu'elle soumette tous les mouvements de la sensibilité, tout le monde des passions, il faut pas oublier cela, à la souveraineté de l'amour de Dieu. Voyez la comparaison suivante. La femme, pour l'ordinaire, change sa condition en celle de son mari et devient noble s'il est noble. Elle devient reine s'il est roi, duchesse s'il est duc. La volonté change aussi de qualité selon l'amour qu'elle a pour le mari. Hein? S'il le mari est charnel, elle est charnelle. S'il est spirituel, s'il est spirituel et toutes les affections de désir, de joie, d'espérance, de crainte et de tristesse, eh bien, sa femme, elle, est comme un enfant. Elle est née du mariage de l'amour. Il y en a en nous une tension fréquente entre le bien et le mal, et j'en sais quelque chose. Notre volonté, au lieu de tout orienter dans le sens de la volonté de Dieu, se laisse entraîner par des biens qui séduisent tout simplement nos sens. La structure de notre personnalité est parfois comparée à une grande bâtisse dont les étages inférieurs comportent le monde des tendances, des pulsions, avec sa part d'inconscient, d'irrationnel et même de tyrannie. Il y a aussi le domaine des sens, avec toute leur richesse. Il y a surtout l'intelligence et la volonté qui nous ouvre au monde de la culture, de l'art et de l'amour, qui nous permettent d'accéder à l'amour de Dieu si nous accueillons son invitation à être et devenir ses enfants. La mortification n'a pas pour objectif de supprimer l'agitation de ce que l'on peut appeler la partie inférieure de notre âme. Nous n'éliminerons jamais les assauts de notre sensualité. Nous n'éteindrons jamais la soif de plaisir, de richesse et de pouvoir qui est en nous et qui nous porte si facilement à oublier quelle est la volonté de Dieu sur nous. Elle cherche avant tout à canaliser ce qui est, dans une vision positive des choses, une puissance de vie. Elle vise à consolider la volonté qui doit gouverner le monde des passions sans se laisser tirailler à hue et Adia. Elle, donc, est comme une sorte de boussole qui aurait perdu le nord. Et sur tout ce peuple des passions sensuelles, la volonté tient son empire, rejetant leurs suggestions, repoussant leurs attaques, empêchant même leurs effets, à tout le moins, il faut le dire, pour leur refuser fortement leur consentement sans lequel elles ne peuvent l'endommager et par leur refus duquel, eh bien, elles demeurent vaincues, voire même à la longue abattues et affaiblies, efflanquées, réprimées et sinon du tout mortes, au moins amortie, on peut le dire, ou mortifiée, disons carrément, se calmer. Donc, ne faisons pas de la mortification chrétienne une simple technique de maîtrise de nous-mêmes. Elle est une recherche du pur, on peut dire, du pur amour de Dieu. Et si l'agitation de la partie inférieure de notre âme doit être dominée par la partie supérieure, c'est avant tout pour une adhésion généreuse et entière à la volonté sainte, oui, à la merveilleuse volonté du Père. Et ceci pour passer sa vie en obéissance et parfaite soumission à la volonté de Dieu, afin de lui offrir un cœur pur, net et vide de notre propre volonté et surtout de notre amour propre. Je n'ai jamais pu approuver la méthode de ceux qui, pour réformer l'homme, commencent par l'extérieur, par les contenances, par les habits, par les cheveux. Voyez-vous, la véritable réforme est intérieure. C'est un changement du cœur. Un changement du cœur qui oriente la totalité d'une vie vers Dieu. Les âmes qui désirent tout de bon d'aimer Dieu ferment leur entendement au discours des choses mondaines, et ceci pour l'employer plus ardemment des choses divines et ramasser leurs prétentions sous l'unique prétention qu'ils ont d'aimer uniquement, absolument uniquement Dieu. Et quiconque désire quelque chose qu'il ne désire pas pour Dieu, eh bien, il en désire moins Dieu, me semble-t-il. Et cette mortification du cœur, je préfère le mot renoncement, c'est un esprit de sacrifice. Elle est, selon la volonté de Dieu, telle qu'elle s'exprime à travers les événements de chaque jour. Et les acceptations généreuses et souriantes des contrariétés qui jalonnent notre route. Oui, chers amis, un illustre apôtre, et vous allez le reconnaître, nous a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 24, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je contemple en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Oui, tout comme saint Paul, nos épreuves et notre renoncement prennent toute leur valeur, on peut le dire, lorsqu'ils sont unis à la passion du Christ et offert au Père pour le salut du monde. À la suite du Christ qui s'est librement engagé dans sa passion, soyons-nous aussi des êtres libres, appelés que nous sommes à liberté. Oui, à la liberté, croyez-moi, de tous les enfants de Dieu. C'est notre devoir. Nous arrivons à la deuxième partie de notre étude, c'est avoir une âme de pauvre. Ça, c'est encore une question qui peut parfois être mal comprise. Essayons de comprendre cela. Cachons doucement notre petitesse en la grandeur de Dieu, et comme un petit poussin tout couvert des ailes de sa mère, demeure en assurance et tout chaudement reposons nos cœurs sous la douce et amoureuse providence de notre Seigneur et abritons-nous chaudement sous sa sainte protection. La première béatitude proclamée par le Christ sur la montagne est celle de la pauvreté. Qu'est-ce qu'il a dit ? On n'aime pas beaucoup entendre cela. « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est pour eux ou à eux. » Elle est la première, non pas parce qu'elle irait à l'encontre de l'aspiration la plus profonde de l'être humain, sans cesse tenter de vouloir posséder toujours davantage. Le Christ la propose d'abord parce qu'elle est absolument fondamentale, parce qu'elle nous situe comme des créatures en face de la source de tout bien. Donc, être pauvre, c'est accepter de tout recevoir de Dieu, car lui seul est la source de l'être, lui seul est riche en miséricorde. Malgré notre condition de pécheur, il nous offre sans cesse son amour et sa tendresse. Il y a une correspondance non pareille entre Dieu et l'homme pour leur réciproque perfection, non que Dieu puisse recevoir aucune perfection de l'homme, mais parce que, comme l'homme ne peut être perfectionné que par la divine bonté, ou si la divine bonté ne peut exercer sa perfection hors de soi, qu'à l'endroit de notre humanité, l'une a grand besoin et grande capacité de recevoir du bien et l'autre a une grande abondance et grande inclination pour en donner. Je répète, l'une a un grand besoin et grande capacité de recevoir du bien et l'autre a une grande abondance et grande inclination pour en donner. Donc, heureux ceux qui, en face de Dieu, se situent dans une attitude d'ouverture et d'accueil. La pauvreté évangélique ne peut se vivre que dans l'humilité. La parabole du pharisien et du publicain le montre bien. Le pharisien se comporte comme un riche. Il est riche de ses jeûnes, de ses aumônes, de sa persévérance dans la prière, de sa fidélité à la loi. Il est si riche qu'il s'enferme dans une attitude de suffisance. Ce faisant, il se coupe de la source et se ferme à Dieu. Aussi ne peut-il être justifié, puisque c'est Dieu seul qui rend juste et qui sauve du péché. Le publicain, au temps du Christ. Ce publicain a une âme de pauvre. Il proclame sa bêtise, mais pas tellement la bêtise, on pourrait le croire, mais surtout sa petitesse et sa misère. Je répète, donc notre publicain, au temps de Christ, mais il y en a aujourd'hui également, il a une âme de pauvre. Et il proclame sa petitesse et sa misère. Oui, il s'abandonne. Il s'abandonne absolument confiant et joyeux, même joyeux, à Dieu, car il sait qu'il est riche Dieu en pardon. Et je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, mais l'autre non. Donc, chers amis, il ne suffit pas d'avoir la conviction que Dieu est tout et que sans lui, nous ne sommes absolument rien. Il ne suffit pas d'affirmer que tout est à Dieu et que continuellement nous recevons tout de lui. Encore faut-il que notre relation aux autres soit imprégné de cette pauvreté évangélique. Quand plein de santé et de force, nous nous sentons sûrs de nous, de nos capacités, de nos initiatives, et que nous nous sentons supérieurs, très supérieurs aux autres, nous ne sommes plus des pauvres. Et l'orgueil nous taraude. L'orgueil nous expose à écraser les autres, à leur faire sentir leur dépendance à notre égard. Quand nous nous faisons le centre du monde et que nous agissons sans tenir compte des autres, quand nous disposons de nos temps libres et de nos loisirs sans égard pour notre entourage, nous ne sommes pas des pauvres. Notre égoïsme nous ferme sur nous-mêmes et nous perdons mille occasions de faire plaisir et d'apporter de la joie. Oui, quand nous nous laissons ronger par l'inquiétude du lendemain et que nous oublions que Dieu est Père et que tout vient de Lui, quand dans des situations d'incompréhension, d'échec, de solitude, nous nous révoltons, quand nous accusons les autres pour nous excuser nous-mêmes, nous ne sommes pas du tout dans une attitude de pauvre. Quand dans notre milieu de vie, familial ou professionnel, nous nous sentons mis de côté et quand nous croyons que nos qualités et nos dons ne sont pas reconnus à leur juste valeur, quand nous baissons les bras et manquons de courage, nous ne sommes pas fidèles au Christ pauvre qui a connu les humiliations et l'abandon des siens. Voyez-vous, dans notre monde de progrès scientifique, vient un moment où la maladie, l'invalidité, le grand âge nous rendent de plus en plus dépendants des autres. Et c'est la tentation de nous lamenter, de nous révolter à cause de notre incapacité d'agir. Toutes ces misères deviennent pauvreté, surtout si nous savons rejoindre le Christ dans son dénuement et sa souffrance, si nous savons les lui offrir. Et là, ça va tout changer pour la construction de son royaume. Donc, la pauvreté évangélique, nous demande aussi de nous situer en face des biens matériels, dans une attitude de foi en la providence de qui vient tout bien. Oui, elle est l'appel à la liberté, appel à prendre de la hauteur à leur égard, et ceci pour ne pas être tout simplement prisonnier. Donc, les situations personnelles sont fort diverses, et ceci en raison des différences de situation sociale et professionnelle. L'Évangile nous appelle toujours à un saint réalisme. Il nous demande de vivre la situation concrète en gardant la parfaite maîtrise des désirs qui s'agitent en nous et qui nous portent à vouloir plus que nous n'avons besoin, à chercher à accaparer ce qui appartient à autrui. La fièvre de la possession nous guette tous. Si vous affectionnez fort les biens que vous avez, si vous en êtes fort en besoigné, donc préoccupé, et mettant votre cœur en eux, y attachant même vos pensées et craignant d'une crainte vive et empressé de les perdre, hein? Alors croyez-moi, vous avez encore quelque sorte de fièvre. À ceux qui jouissent de conditions matérielles intéressantes, je donne le conseil suivant. Ne désirez point d'un trop grand désir, et vous aurez quelques sujets de croire qu'étant riche, en effet, vous ne l'êtes point d'affection, mais que vous êtes pauvre d'esprit et par conséquent bienheureuse ou bienheureux, car le royaume des cieux vous appartient. Mais voyez-vous, la pauvreté évangélique, elle exige aussi de faire un choix, le choix d'une vie simple et pauvre, même si nous bénéficions de conditions d'aisance matérielle ou de richesse. Il n'y a pas meilleur signe de liberté à l'égard des richesses que la générosité et le partage avec ceux qui sont dans le besoin. Il n'est pas facile de vivre la béatitude de la pauvreté dans le monde d'aujourd'hui. La position sociale y est trop souvent fonction de l'ampleur des revenus ou du volume de la fortune. Dans ce monde qui perd si facilement le sens de Dieu, faisons effort pour mieux vivre la fraternité et le partage, puisque tous nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu. Et n'oublions pas ce qui nous distingue carrément des animaux. Ah oui, voyez-vous, c'est la différence des bêtes et des hommes quant à leur robe, car les robes des bêtes tiennent à leur chair, et celles des hommes y sont seulement appliquées en sorte qu'ils puissent les mettre et ôter quand ils le veulent. La pauvreté jaillit carrément de la foi. Elle se nourrit de l'espérance et elle s'épanouit dans la charité. Mais pour ceux qui pourraient être tentés de mal interpréter de ce qui vient d'être dit, j'aimerais rectifier quelque chose. Supposons, mes chers amis, que vous avez réussi à avoir 20 000 euros. C'est pas mal, cela. Or là, il y a le danger que les démons de l'avarisme s'emparent de vous. Vous allez devenir de plus en plus irrésistiblement poussé à vouloir toujours plus. Vous allez devenir pingre de plus en plus, poussé à posséder davantage, encore davantage. Vous deviendrez égoïste, dur, sans cœur, sans aucune compassion envers les autres, et cela sont des risques réels. Il est donc clair que Dieu ne vous demande jamais d'être insensé au point de vous dire « Donne tout ce que tu as » et que tout à coup, vous allez devoir dépendre de la générosité des autres. Nous devons prier pour que Dieu nous accorde la sagesse et ainsi garder un peu de bon sens. Mais où cela peut devenir dangereux, que sans que vous puissiez vous en rendre compte, qu'un démon d'avarisme s'empare de vous. Je vous dis cet exemple, et je vous cite, oui, j'aimerais plutôt vous expliquer quelques exemples, croyez-moi, que ma chère et merveilleuse défunte épouse, qui était assistante sociale, m'a raconté. Malheureusement, elle est décédée par négligence médicale. Oh là là, ça c'était quelque chose de terrible. Bref, je suis qu'un être humain, comme vous. Alors voilà quelques histoires authentiques. Une femme de 81 ans, se faisant passer pour être très pauvre et ne pouvant pas même se nourrir, elle reçut l'aide sociale et beaucoup d'autres aides pratiques. Or, à sa mort, les personnes qui ont reçu l'ordre de tout débarrasser afin de permettre à la régie de remettre l'appartement à neuf ont trouvé 380 000 francs suisses cousus dans le matelas. Un autre cas. Un homme très pauvre et âgé, jouant avec son violon à la place de la gare, même en plein hiver quand il faisait très froid, et ceci par tous les temps, a été aidé par beaucoup de personnes au bon cœur. Et quand il est mort, les autorités ont découvert qu'il avait réussi à amasser plus d'un million. Des gitans roumains, on veut pas dire du mal d'eux, ce serait pas bien, on peut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Eh bien, malheureusement, il y en a de ces gitans roumains qui envoient leurs femmes et leurs enfants mendier et le soir, ils les récupèrent avec des puissantes Mercedes. Il est clair que nous devons demander la sagesse en priant pour cela. Mais aider un orphelinat dans certains pays très pauvres ou des gens qui ont dans certains autres pays ni de l'eau potable et pratiquement pas de nourriture et que, supposons, vous avez plus de 60 ans et vous avez plus de 200 000 euros d'économie, plus encore votre rente. Il semble qu'un peu de bon cœur et de charité ne devrait pas être chose impossible si vous vous estimez être vraiment chrétien. Nous arrivons à la troisième partie de notre étude. Allez travailler à ma vigne. Oui, après l'amour de notre Seigneur, je vous recommande celui de son épouse, l'Église. Louez Dieu 100 fois le jour d'être fils et fille de l'Église de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur nous dit, allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Et nous dirons premièrement que Dieu vous a destiné un certain travail à accomplir. Secondement, qu'à ce travail, il a préparé une récompense. Et en troisième lieu, que la récompense sera proportionnée au travail accompli. Voyez-vous, mes chers amis, lorsque le prophète Ésaïe annonce le Messie, il révèle son merveilleux nom, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ce nous contredit, en quelque sorte, une vision individualiste qui nous tente tous. Dieu avec moi, Dieu seulement avec moi, car il n'y a que moi qui le mérite. Nous sommes, heureusement, membres du peuple de Dieu, me semble-t-il, qui n'est plus le seul Israël, mais s'élargit aux dimensions de l'humanité tout entière. La destinée de ce peuple, c'est le royaume de Dieu inauguré sur la terre par Dieu lui-même, qui doit se dilater encore plus loin, jusqu'à ce que, à la fin des siècles, il reçoive enfin de Dieu son achèvement, lorsque le Christ, notre vie, sera apparu selon Colossiens, chapitre 3, verset 4, et que la création elle-même sera affranchie de l'esclavage de la corruption pour connaître la glorieuse liberté des enfants de Dieu, selon Romains, chapitre 8, verset 21. Oui, par notre baptême, nous sommes devenus membres de l'Église de Jésus-Christ. Cette Église de Jésus-Christ reçoit constamment de son chef le salut qui la rend sainte et qui sanctifie chacun de ses membres. Constamment aussi, elle est envoyée dans le monde pour être signe et sacrement de salut, obéissant à l'ordre du Christ, ému par la grâce de l'Esprit Saint et la charité, elle devient un acte merveilleux à tous les hommes et à tous les peuples pour les amener par l'exemple de sa vie. Oui, par l'exemple carrément de sa vie, par la prédication, par les sacrements et les autres moyens de grâce, à la foi, à la liberté et à la paix du Christ. De telle sorte, chers amis, qu'elle leur soit ouverte comme la voie libre et sûre pour participer pleinement, absolument, au mystère du Christ. Chers amis, il ne suffit pas de reconnaître que l'Église a une mission de salut dans le monde. Il faut encore prendre conscience que cette mission nous concerne tous, sans exception, vous et moi. Qui que nous soyons, nous avons à prendre notre part à l'élan missionnaire qui anime le peuple de Dieu. Et puisque l'Église, conduite au souffle de l'Esprit qui unit le Père et le Fils, doit suivre la route qui a suivi le Christ pour annoncer, oui, pour annoncer la bonne nouvelle, eh bien, nous devons, nous aussi, chers amis, accepter de prendre la même route, celle de l'obéissance, l'obéissance du service et de certains renoncements jusqu'à la mort dont Jésus-Christ est sorti absolument victorieux par la résurrection. La tentation est bien entendu grande de nous désintéresser de la mission de l'Église et de justifier notre passivité en pensant que l'apostolat est l'affaire uniquement des pasteurs et des prêtres et des professionnels engagés par l'Église. Mais une telle attitude réduit un manque de foi. Notre époque le montre bien dans l'indifférence religieuse et synonyme de non-participation. Il nous faut réentendre l'ordre que le Seigneur nous donne à chacun et chacune. Allez, vous aussi, à ma vigne, ou encore, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile du salut et guérissez les souffrants. Une prise de conscience renouvelée de notre responsabilité face à la mission de l'Église est indispensable. Ne sommes-nous pas solidaires les uns des autres à l'intérieur du peuple de Dieu? Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs? Voyez-vous, si le pied, par exemple, nous disait « parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », il n'en serait pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », elle n'en serait pas moins du corps pour cela. Tous, nous avons notre place à tenir dans l'Église. Oui, croyez-moi, même des gens comme moi qui ont fait que 4 ans d'école primaire, c'est pas une plaisanterie malsaine, mais c'est malheureusement la vérité. Eh bien, selon mon jugement, on peut dire que le zèle du salut des âmes était la vertu carrément dominante de notre bienheureux Père. Vous pouvez revoir cela dans tout le parcours de sa sainte parole. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de copier ses méthodes de ministère. Il faut surtout voir combien il a été apôtre, en raison notamment de l'extraordinaire témoignage de l'apôtre Paul qu'il a donné et qui entraînait irrésistiblement à la suite du Christ tous ceux qui en ont été les témoins. Il a renouvelé en profondeur, la vie intérieure d'une grande multitude de fidèles. Ah oui, on le voit quand on lit les épîtres de l'apôtre Paul. L'esprit missionnaire qui anime l'Église, oui, le zèle pour le salut des âmes, est un fruit de l'amour. Ça change tout. À proprement parler, le zèle n'est autre chose sinon l'amour qui est en ardeur, ou plutôt, on peut dire l'ardeur qui est en l'amour. Plus notre amour pour Dieu est fort, Plus aussi, nous sommes portés à haïr, à fuir, à empêcher, à détester, rejeter, à combattre et abattre, si l'on peut dire, tout ce qui est contraire, carrément contraire à Dieu, c'est-à-dire à sa sainte volonté et à la sanctification de son saint nom. Donc le zèle comporte deux dimensions. Il tend à écarter de celui qui perçoit combien Dieu est amour tout ce qui pourrait l'en éloigner. Il s'efforce de porter vers Dieu ceux qui ne perçoivent pas assez qu'il est amour. Fruit de l'amour, le zèle pour le service de l'Église et la construction du royaume et présuppose, oui, cela présuppose une foi profonde et une perception nette de la primauté de l'amour de Dieu. C'est Jésus-Christ seul qui est le Sauveur. Rappelons-nous de cela. Il n'y a pas d'autre Sauveur, qu'il s'appelle Bouddha, Mahomet, tout ce que vous voulez, absolument pas. Mais nous ne faisons pas la guerre à ceux qui croient cela. Nous avons le libre choix. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, parfois, dont Dieu veut avoir besoin pour apporter son salut au monde. C'est lui qui envoie sa très sainte inspiration pour conduire certains qui sont perdus et même des rétrogrades à la foi. C'est son esprit qui sanctifie, mais il veut que son action de sanctification soit soutenue par la qualité de notre action apostolique et par la générosité de notre témoignage. Il n'y a pas d'apostolat authentique et fécond qui ne soit enraciné dans la prière et dans l'esprit de sacrifice. Si Dieu est celui qui nous comble de son amour, il est aussi celui, oui, il est aussi celui qui veut cependant être prié, tout simplement, être en quelque sorte forcé, vaincu par une sorte d'importunité et une prière assidue. Ça paraît peut-être bizarre d'écouter cela ainsi, je répète, mais il est vrai qu'on pourrait mal le comprendre. Voyez-vous, si Dieu est celui qui nous comble de tout son amour, il est forcément aussi celui qui veut être prié. Et des mots qui pourraient être mal compris, il veut être forcé, être vaincu par une sorte d'importunité et une prière assidue, comme celui qui avait demandé au milieu de la nuit du pain. Et croyez-moi, on a tout de même ouvert la fenêtre et on ne lui a pas lancé un caillou ou un serpent vénéneux, mais on lui a donné du pain. Eh bien oui, celui qui, sous la conduite de l'esprit, se laisse emporter vers les auteurs de l'amour de Dieu et qui s'ouvre à la mission de l'Église, la porte dans sa prière et s'y engage carrément généreusement en fonction de ses charismes, oui, eh bien, par contre, on peut dire que celui qui paye de sa personne dans l'apostolat, mais ne fait pas pas l'effort du tout d'être relié à la source par la prière et l'oraison, eh bien, il va se dessécher. Et il peut même verser dans une sorte d'activisme qui n'est pas du tout ce qui va plaire au Seigneur. C'est le même esprit qui nous rend saints et qui fait de nous des apôtres pour l'Église et aussi pour le monde. Il veut rendre notre âme souple, maniable et obéissante à ses divins mouvements et célestes inspirations. Par ses dons, il donne à chaque fidèle de montrer de la terre des choses merveilleuses. Et je dirais cela encore un peu autrement, par les dons que vous avez reçus, que l'Esprit Saint vous donne librement, eh bien, vous recevez, vous tous les fidèles, la possibilité de monter de la terre vers le ciel. Ça, c'est sérieux. Et ceci pour aller s'unir à la poitrine de Dieu, le Père, qui est tout-puissant, et de descendre, oui, de descendre du ciel sur la terre pour venir prendre le prochain par la main, votre prochain, de le prendre par la main, de l'apprendre par la main, et pour le ou la conduire carrément au ciel. C'est possible. Et dans ce mouvement de montée vers Dieu, le don de crainte nous fait quitter le mal. Celui de piété nous excite à faire le bien. Le don de science nous fait connaître le bien qu'il faut faire et le mal qu'il faut évidemment fuir, et ceci par le don de force, de puissance. Nous prenons courage contre toutes les difficultés qu'il y a en notre entreprise. Celui de conseil, oui, pour nous donner de choisir les moyens propres à cela. Donc, le don d'entendement, d'intelligence, nous unit à Dieu, et ceci pour voir et pénétrer les traits de son infinie beauté. Enfin, celui de la sagesse joint notre volonté, elle joint la sagesse, notre volonté à Dieu, pour savourer et expérimenter les traits de son incompréhensible bonté. De cette union à Dieu jaillit donc la descente vers le prochain, pour le porter vers Dieu. Le don de sagesse remplit notre volonté d'un zèle très ardent et parfume notre âme des parfums de la charité souveraine de Dieu. Celui de l'entendement prend une clarté non pareille et fait provision des conceptions et maximes plus excellentes pour la gloire de la beauté et la bonté divine, et ceci par le don du conseil. Nous avisons par quels moyens nous inspirerons dans l'esprit des prochains le goût et l'estime, on peut dire le goût et l'estime des uns pour les autres. C'est pas beau cela? Je répète, par le don du conseil, nous avisons par quels moyens nous inspirerons dans l'esprit de notre prochain le goût et l'estime des uns pour les autres. et nous nous encouragerons en recevant une sainte force pour surmonter, chers amis, les difficultés qui peuvent être en ce dessein. Nous commençons à prêcher par le don de science, exhortant les âmes à la suite des vertus et la fuite des vices, et nous tâchons de leur imprimer la sainte piété, afin que, reconnaissant Dieu pour être le Père très aimable, ils lui obéissent avec une crainte filiale. Et nous les pressons de craindre les jugements de Dieu, afin que, mêlant cette crainte d'être damné avec la révérence filiale, qu'ils puissent quitter plus ardemment la terre pour monter au ciel avec nous. La véritable dévotion, c'est la rencontre avec Dieu et son Fils Jésus-Christ, mais aussi, oui, la rencontre des hommes, des femmes. Elle est la configuration au Christ pour la construction de son royaume céleste à la gloire de la Sainte Trinité. Amen. Chers amis, avant de terminer par la prière, eh bien, j'aimerais vous donner quelques paroles que j'ai reçues pour vous dans mon cœur. J'essaye de m'en rappeler. Criez à moi, nous dit le Seigneur. Je vous entendrai et je vous bénirai pour que soient satisfaits vos besoins et ceux des autres. Puisez dans ces inépuisables réserves. Faites de ces admirables vérités l'objet de votre quête, et vous trouverez. Vous pourrez connaître des moments d'attente obscure où vous croirez être abandonné. Dans ces moments-là, souvenez-vous, c'est même un ordre qu'il vous donne quand il parlait aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Après son départ, ne durent-ils pas se consoler en se disant l'un à l'autre « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Parfois, vous le sentirez présent sans pourtant rien entendre. Demeurez en cette présence. Il est la lumière du monde. Mais pour vous ménager, il est quelquefois nécessaire qu'il atténue sa lumière, afin qu'elle ne vous aveugle pas et ne vous empêche pas de distinguer votre voie et votre tâche quotidienne. C'est au ciel seulement que les âmes peuvent se mettre à table et connaître dans l'extase la plénitude de révélation que le Père réserve à ses enfants. Pour le moment, vous êtes des pèlerins, et tout ce qu'il vous faut, c'est de recevoir, avec des mots d'ordre quotidiens, la mesure de force, oui, la mesure de force et de lumière indispensable pour la journée. Efforcez-vous donc d'écouter sa voix. Faites-le dans la ferveur et dans la joie. Qu'aucune autre voix surtout n'étouffe la sienne. Le Seigneur doit pouvoir parler en maître, et quand les hommes se complaisent dans les bavardages, Oui, les bavardages du monde. Et j'en sais aussi quelque chose. Il ne peut que se retirer, malheureusement. La vie vous a blessé. Seules des vies ouvertes de cicatrices, des vies qui sont couvertes de cicatrices, peuvent travailler au salut des autres. Et vous ne saurez vous soustraire à l'indispensable discipline. Elle est la marque du vrai disciple. Et faites-lui toujours confiance, quoi qu'il arrive, ne vous rebellez jamais. La confiance qu'aujourd'hui vous lui accordez soulage l'agonie qu'on lui inflige sur terre et qu'on lui a infligée également autrefois, mais aussi aujourd'hui. Oui, le rejet carrément de son amour. Prions maintenant ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous recourons à toi dans le sentiment de notre misère morale et de notre faiblesse, sachant que toi seul peux nous fortifier, nous protéger et nous bénir. Comme sans cesse tu renouvelles sur nous tes bienfaits, nous devons sans cesse aussi t'en témoigner notre gratitude. Tu nous as donné des cœurs pour t'aimer. Nous devons donc te chercher avec amour et confiance. Mais combien nous sommes loin d'accomplir le commandement qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et cependant, à qui irions-nous qu'à toi, Seigneur, pour nous défendre contre nous-mêmes? C'est dans notre propre cœur que sont nos plus dangereux ennemis. Garde-nous donc de notre faiblesse, de notre corruption. Délivre-nous de tout orgueil et de toute confiance en nos propres forces. Fais que nous marchions en toute humilité avec toi et que ta grâce ne nous abandonne jamais. Dieu de notre salut, soutiens à chaque pas notre course. Ne t'éloigne pas un moment de nous, car un moment suffit pour nous faire succomber. Affermis-nous quand nous chancelons. Relève-nous quand il nous arrive de tomber. Sauve-nous, car sans toi, nous périssons. Que nous nous tenions toujours attachés à toi, ô Sauveur de nos âmes, pour t'aimer et pour t'imiter. Nous te supplions d'exaucer les prières que nous t'offrons pour nos familles et nos amis, pour les malades et les affligés. Soutiens-les, Seigneur, par ta puissance infinie. Sois leur force, leur consolation, leur salut, et dans la vie et aussi dans la mort. Reçois nos supplications au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études pas toujours toutes simples. Mais vous pouvez apprendre certaines choses, et moi-même, j'en apprends avec vous. À bientôt à nouveau. Je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse richement. Au revoir, chers amis.